Quel est le lien exact, la mécanique invisible en fait, entre le prix complètement fou d'un mouton pour un repas de fête au Maroc et la disparition mystérieuse d'un physicien nucléaire du MIT aux États-Unis?
Ouais, vu comme ça, on dirait vraiment le début d'un thriller géopolitique un peu tiré par les cheveux.
C'est clair. Et pourtant, quand on plonge dans les sources Condillac aujourd'hui, qui sont tirées de la publication eWeek numéro 126, ben on se rend compte que ces événements ont un ADN commun.
Tout à fait.
Notre mission pour cette plongée analytique, c'est vraiment de décrypter une mutation majeure de l'économie mondiale. En fait, c'est la guerre silencieuse pour la ressource la plus rare, la plus fragile et aujourd'hui la plus chère au monde.
Le capital humain?
Exactement, le capital humain.
Et cette mutation, bah, elle change absolument toutes les règles du jeu. Historiquement, on analysait la puissance d'un pays avec ses réserves d'or, son pétrole, la taille de son armée, quoi.
Ouais, les classiques.
Voilà. Mais la lecture de ces documents nous montre un basculement total. Aujourd'hui, les États se rendent compte que l'infrastructure la plus critique, c'est pas un puits de pétrole, c'est l'individu qualifié.
Que ce soit un technicien en logistique ou un chercheur en aérospatial.
C'est ça. La capacité d'un pays à former, à garder ou même à remplacer cette personne, bah c'est ce qui dicte sa survie économique maintenant.
Alors, commençons par la base de ce capital humain, la démographie. Parce que les chiffres des Nations Unies dans notre dossier concernant le Maroc, c'est un véritable électrochoc.
Les projections sont impressionnantes.
Ouais, on parle de la tranche des 15-24 ans. Les projections montrent un effondrement de cette jeunesse. On passerait de 6,2 millions en 2025 à 5,6 millions en 2050.
Ce qui fait une perte sèche de près de 600 000 jeunes.
C'est énorme. Pour donner une idée, cette tranche d'âge, c'était presque 21% de la population en l'an 2000. Aujourd'hui, on est à 14,1% et ça va chuter à seulement 7,6% d'ici 2050.
Oui.
Comment on explique une contraction aussi violente en si peu de temps?
Bah, c'est le résultat mécanique d'une transition démographique accélérée. Quand un pays s'industrialise très vite, l'accès à l'éducation s'allonge.
Surtout pour les femmes, non?
Exactement. L'intégration des femmes dans le marché du travail qualifié change complètement la structure familiale. L'urbanisation joue aussi, le coût de la vie en ville explose, du coup les ménages font beaucoup moins d'enfants, l'âge de premier mariage recule aussi.
Donc la base de la pyramide des âges, qui était super large avant, elle se rétrécit d'un coup.
C'est tout à fait ça. Le vivier naturel de main-d'œuvre, qu'on pensait inépuisable, devient une ressource finie.
Mais attends, si ce vivier se rétrécit en interne, comment on doit interpréter ce qui se passe juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar? Parce que nos sources montrent que l'Espagne assouplit les règles pour reconnaître les permis de conduire marocains.
Ouais, pour aspirer massivement des chauffeurs routiers.
Voilà. On parle d'un manque de 20 000 chauffeurs en Espagne et de près de 400 000 dans toute l'Europe. Je veux dire, c'est pas une forme de pillage économique, ça, sous couvert de politique d'immigration?
C'est un mot fort, pillage.
Bah, on laisse un pays en développement payer pour former sa jeunesse et on siphonne les talents dès qu'ils sont prêts à bosser, quoi.
Je comprends l'idée, mais le rapport nous rappelle que c'est d'abord d'une rationalité économique implacable. L'Europe vieillit, elle a un niveau de consommation hyper élevé.
Donc il faut des camions pour livrer tout ça.
Et voilà, sauf qu'ils nous produisent plus la main-d'œuvre pour les conduire. Changer une loi sur les permis, c'est pas juste de l'administratif, c'est une vraie manœuvre géopolitique de captation de ressources.
Ah ouais.
L'Espagne fait ce qu'elle doit faire pour éviter que ses chaînes d'approvisionnement soient paralysées. Le vrai défi, il est du côté des pays qui exportent cette main-d'œuvre.
Du coup, regardons les conséquences pour le pays d'origine. Si je prends une analogie avec le sport, c'est comme un club de foot de milieu de tableau. Il investit une fortune dans son centre de formation, il repère les jeunes, paie pour leur santé, leur technique pendant 15 ans.
Enfin, je vois très bien l'idée.
Et pile au moment où ces joueurs peuvent faire gagner l'équipe, bam! Des clubs étrangers avec des budgets illimités payent la clause libératoire. Le club formateur est ruiné en fait. Il ne peut pas bâtir d'équipe.
C'est une excellente analogie. Sauf que là, on joue pas un championnat, on fait tourner les infrastructures critiques.
Ouais, c'est pas un jeu.
Le Maroc développe le port de Tangemet pour en faire un hub mondial. Il y a des zones industrielles massives et la logistique titanesque pour le mondial 2030 qui arrive.
Ah oui, le mondial.
Ben, un chauffeur qualifié dans ce contexte, c'est pas un simple exécutant. C'est comme un globule rouge qui transporte l'oxygène de l'économie. S'ils partent tous en Europe, ces belles infrastructures risquent de tourner au ralenti.
Faute de bras qualifiés pour opérer sur le terrain?
Exactement.
Donc le défi, c'est pas d'interdire à l'Europe de recruter, c'est de rendre le fait de rester sur place attractif. Et ça pose la question des salaires.
Tout à fait. Et avec cette raréfaction de la main-d'œuvre masculine traditionnelle, le marché du travail est obligé de muter.
Et on le voit dans les chiffres, une donnée vraiment marquante du rapport, c'est que l'industrie marocaine a atteint un taux de parité de 41% entre les femmes et les hommes. C'est fou, ça dépasse des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni.
Et les sources précisent bien qu'on parle de postes clés, d'ingénierie, de management, pas juste d'assemblage.
C'est une vraie victoire sociale, ouais.
Absolument. Et ça boucle avec notre point sur la démographie. L'arrivée massive des femmes à ces postes crée des foyers avec de bons revenus. Théoriquement, le niveau de vie de cette classe moyenne devrait exploser.
Théoriquement, oui.
Sauf qu'il y a un effet ciseau. La mondialisation, qui a permis cette industrialisation, c'est la même qui importe aujourd'hui une inflation terrible. Et ça rogne complètement le pouvoir d'achat de ces nouveaux foyers.
Et c'est là que le mouton de Laïd Alada entre en scène, de façon assez brutale. Les sources détaillent une envolée spectaculaire des prix avant la fête.
Ouais, ça chiffre vite.
La viande bovine, c'est entre 90 et 120 dirhams le kilo, et la viande ovine flambe entre 130 et 150 dirhams. Comment une tradition aussi ancrée, qui repose sur un élevage de proximité, se retrouve prise en otage par les marchés mondiaux ?
Parce que l'élevage purement local, c'est devenu une illusion dans notre économie interconnectée. Ce prix de la viande, c'est une leçon magistrale sur les chaînes de valeur.
Comment ça ?
Déjà, une partie de la viande est importée, du Brésil par exemple. Donc on importe directement l'inflation sud-américaine. Ensuite, il y a la logistique. Les tensions géopolitiques font exploser le coût du fret maritime.
Ok, le transport coûte plus cher.
Ouais, mais le vrai moteur de cette inflation, ce qui étrangle l'éleveur à la base, c'est l'alimentation du bétail.
Le maïs et le soja, c'est ça ?
Exactement. C'est coté en bourse. Les documents rapportent une hausse de 10 à 20% du prix de ces aliments. Donc, quand le cours du soja s'envole à Chicago à cause d'une sécheresse ou d'un conflit, l'éleveur local voit ses coûts exploser.
Et comme ses marges sont déjà minuscules, il doit répercuter ça sur le client.
C'est ça. Du coup, ces ménages, même avec de salaires industriels, prennent de plein fouet un choc lié à une souveraineté alimentaire qui dépend de la bourse américaine.
C'est dingue! Et toute cette pression économique étouffante finit par fracturer le tissu social même à l'intérieur des maisons.
Inévitablement.
L'inflation, c'est pas juste une courbe sur un graphique de banquier, quoi. C'est un stress quotidien, c'est l'angoisse de pas boucler les fins de mois.
Et ça crée de la tension.
Grave. Et quand la cellule familiale est sous pression, souvent la violence retombe sur les plus vulnérables. Le rapport parle d'ailleurs du lancement à Salé d'une enquête nationale vraiment inédite sur la violence envers les enfants.
Ouais, cette enquête marque un vrai tournant méthodologique.
Pourquoi ?
Parce qu'elle rassemble une coalition énorme. Le ministère, l'UNICEF, mais aussi des organes de stat comme le Haut Commissariat au Plan, l'Observatoire National du Développement Humain et l'Observatoire National des Droits de l'Enfant.
C'est du lourd.
Oui. L'objectif, comme l'explique la ministre Naïma Ben Yahia, c'est pas juste de constater les violences physiques ou psy, mais de créer une cartographie basée sur la donnée pour anticiper ces dérives.
Alors, l'intention est super, mais moi, il y a un truc qui me bloque sur la méthode. Ils veulent mesurer les violences numériques. Comment on peut extraire des données fiables d'un espace aussi privé et insaisissable que les réseaux sociaux des jeunes ? Essayer de mesurer ça, c'est comme, je sais pas, comme essayer d'attraper le vent avec un filet de pêche.
C'est une bonne image, ouais. Mais en fait, on cherche pas à lire leurs conversations privées. On mesure les symptômes.
Les symptômes ?
Ouais, de manière empirique. On croise des données d'alerte. Le nombre d'appels au numéro d'assistance, les signalements de cyberharcèlement dans les écoles, les baisses d'assiduité scolaire liées à des traumas en ligne.
Ah, d'accord, des indicateurs indirects.
Voilà. L'enjeu de cette gouvernance par la donnée, c'est de sortir du pifomètre, quoi. Sans données précises, les institutions publiques arrivent toujours après la bataille.
Et quand on arrive trop tard ? Les gens finissent dans le système judiciaire. Ce qui nous amène à une déclaration vraiment franche du ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi.
Ah oui, cette citation est forte.
Il dit dans le dossier Coupe, « La prison n'est pas une solution, c'est un problème qui en crée d'autres. » C'est quand même un aveu d'échec impressionnant pour un ministre en exercice, non ?
C'est plutôt une preuve de lucidité institutionnelle, en fait.
Ouais.
Le rapport cite d'ailleurs Nathalie Boal de l'Association internationale des services correctionnels. Et ça montre bien les limites de ce modèle purement punitif.
Avec la surpopulation carcérale, j'imagine.
Exactement. Quelqu'un en prison ne produit pas de richesse, ça coûte de l'argent à l'État, et surtout la personne détruit son employabilité future.
Et vu le déclin démographique dont on parlait au début.
Voilà. Une société ne peut plus se permettre de gâcher son capital humain en l'entassant dans des prisons saturées. Faut traiter les causes socio-économiques à la base.
Donc la boucle interne est bouclée. Faut protéger le capital humain de la pression économique pour pas le perdre en prison.
C'est ça.
Mais à l'international, protéger ses intérêts, ça prend des formes assez différentes. Le dossier parle d'avancées diplomatiques. Il y a cette décision du Honduras, par exemple.
Qui suspend sa reconnaissance de la RASD.
Exactement, cette entité séparatiste non reconnue par l'ONU. Le texte dit que c'est le résultat d'une diplomatie marocaine basée sur l'accumulation, la constance et le travail de fond. C'est quoi concrètement cette mécanique?
En gros, c'est de la patience stratégique. On s'éloigne de la diplomatie des grands discours télévisés pour faire de l'attrition institutionnelle.
De l'usure, en gros.
Ouais, le système international fonctionne avec des blocs de vote et des précédents juridiques. Quand un pays d'Amérique centrale retire sa reconnaissance, ça fait bouger la balance dans les commissions internationales.
C'est un encerclement légal, petit à petit.
Tout à fait. On ne cherche pas le gros coup de com'. On construit un consensus écrasant, dossier par dossier, jusqu'à ce que la position d'en face tienne plus debout.
Une approche silencieuse, très pro, et ça résonne avec une autre stratégie très concrète de l'analyse U, le positionnement du Maroc comme base industrielle pour les drones en Afrique.
Ah, ce secteur est fascinant!
On parle d'investissements de pointe, pour la défense bien sûr, mais aussi beaucoup pour l'agriculture et la logistique.
Et c'est là que la technologie vient combler les failles humaines qu'on liste depuis le début de cette discussion.
Bah oui, s'il y a moins de main-d'œuvre rurale.
Et que le coût du maïs et du soja explose, comme on l'a vu, il faut optimiser. Un drone agricole qui cartographie l'irrigation ou pulvérise au centimètre près, ça maintient les rendements agricoles sans avoir besoin d'une armée de travailleurs.
Donc, développer sa propre industrie de drones, c'est garantir son autonomie technologique pour protéger sa production alimentaire.
C'est exactement ça.
D'un côté, on a cette maîtrise technologique très sereine. Et de l'autre, on a la première puissance mondiale qui semble complètement paniqué face à ses propres vulnérabilités humaines.
Oui, la dernière partie du dossier, on se croirait vraiment dans de la science-fiction.
C'est fou, hein? Aux États-Unis, la presse s'emballe parce qu'une dizaine de scientifiques de très très haut niveau sont morts ou ont disparu en quelques années.
Et vu leur profil, on comprend l'emballement. On parle de gens comme William Neal McAsland, très lié à l'US Air Force.
Il y a aussi Monica Jacinto Reza,
experte en propulsion pour la NASA.
Ou Nuno Loureiro, un grand physicien nucléaire du MIT.
Quand des cerveaux avec des habilitations secret défense disparaissent comme ça, forcément la presse cherche un complot systémique.
Inévitablement. Les rumeurs partent dans tous les sens. Secret nucléaire, technologie de rupture, le FBI sur les dents et bien sûr, les OVNI.
Ah, les classiques théories du complot.
Mais au-delà de ce folklore, le rapport dit quoi sur les faits?
Les sources, elles restent hyper factuelles. Elles précisent qu'à ce stade, il n'y a aucune enquête fédérale qui prouve un lien ou une conspiration entre ces décès.
Ça va de l'accident tragique au drame personnel, c'est ça?
C'est ça. Le rapport est impartiel. Mais ce qui est intéressant d'analyser, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, c'est l'angoisse que ça révèle. Pourquoi le public américain panique autant?
Parce qu'ils réalisent que leur avance technologique ne tient qu'à quelques cerveaux.
Exactement. Toute la suprématie des États-Unis, militaire, économique, spatiale, elle repose sur une hyper-spécialisation.
Ok, donc si un projet spatial à 10 milliards dépend d'une équation que seules 3 personnes maîtrisent...
Ben, la mort d'une de ces personnes, c'est plus un fait divers. C'est une crise de sécurité nationale. Perdre un physicien du MIT, c'est perdre des années de recherche face à des puissances rivales.
C'est vraiment fascinant de voir que l'échelle change, mais le problème reste le même, peu importe le pays.
Tout à fait.
Si on résume cette exploration aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un pays émergent qui voit sa jeunesse baisser et qui craint que l'Espagne n'aspire ses routiers de Tanger Med.
Ouais.
Une classe moyenne qui subit l'inflation du soja brésilien, ce qui stresse les familles et force l'État à utiliser la data pour éviter d'envoyer les jeunes en prison.
C'est ça.
Et de l'autre côté, une superpuissance américaine qui panique parce que ses ingénieurs d'élite sont fragiles.
Bah, tous ces éléments prouvent que la nature même de la puissance géopolitique a muté. C'est plus la masse qui gagne, c'est la capacité d'un pays à intégrer, protéger et hyper spécialiser l'humain.
Que cet humain conduise un camion en Andalousie ou invente des algorithmes à la NASA.
Voilà. La vulnérabilité d'un État, c'est la vulnérabilité de ses talents.
Tout est interconnecté, en fait. L'humain est le moteur absolu, mais aussi le maillon le plus faible de cette économie mondiale.
Et ça amène une dernière réflexion, un peu vertigineuse, sur la trajectoire de nos sociétés.
Je t'écoute.
Si on manque de plus en plus de bras avec la chute démographique, et que les cerveaux de pointe sont des cibles géopolitiques inestimables, bah, l'essor massif des drones et de l'automatisation, ça prend une autre dimension.
Comment ça, Matt ?
Peut-être que cette course à la technologie autonome, c'est pas juste pour faire plus de profit. C'est peut-être l'humanité qui adapte silencieusement ses systèmes à un monde inéluctable.
Un monde où l'homme deviendra trop rare.
Trop rare et beaucoup trop précieux, ouais, pour être exposé aux dangers physiques de la production ou de la géopolitique.
Remplacer l'homme, pas parce que la machine a gagné, mais parce que l'homme est devenu un luxe que l'économie ne peut plus gaspiller.
Exactement. C'est une réflexion fascinante, non ?
Ah ouais, ça redéfinit totalement notre place dans le système. C'est sur cette pensée vraiment vertigineuse que s'achève notre plongée analytique du jour. La valeur d'un individu n'a jamais été aussi haute, et les luttes pour se l'approprier n'ont jamais été aussi complexes.